Au sommaire, Nord Kivu, cri d'alarme du chef de la chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru. C'est en rapport avec le nombre croissant des cas de décès dus au choléra dans les camps déplacés de Kanyarutinya, non loin de la ville de Goma. Le président se cite fait état de 6 morts en 2 jours seulement. La situation sociale de la ville de Kinshasa, avec des morts et autres dégâts enregistrés au cours des dernières pluies, au menu de la rencontre hier vendredi entre les gouverneurs et les députés nationaux élus de la capitale. Ils ont passé au fin les causes de ces dégâts et comment les éviter à l'avenir. L'invité de ce journal est le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mualushai parle de l'insécurité qui prend des proportions inquiétantes dans la ville de Butembo, au Nord Kivu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce cri d'alarme du chef de la chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Il s'est dit très préoccupé par la situation difficile que traverse sa population qui a fui la guerre du M23 pour se réfugier dans les camps de déplacés de Kanyarutinya, situé non loin de la ville de Goma en territoire de Niragongo. Dans ce site, c'est le nombre croissant des cas de décès dus au choléra. Selon Théo Moussekoura, le président de ce site, en 2 jours seulement, soit hier vendredi à ce samedi, 6 personnes déplacées sont mortes de choléra et la situation s'empire. On écoute à ce sujet Mouamine Dézé, Katourebe Jean-Baptiste, chef de chefferie de Boucha, au micro de Bernardine Diambou.
C'est un message vraiment de courage, de compassion. C'est très difficile ce qu'ils traversent. Ça dure depuis plusieurs mois. Parfois, ils quittaient, ils revenaient à Rugari. Ce que vous avez là, c'est essentiellement le groupement de Rugari et de Gisigari qui a fui les combats qui venaient de Rutshuru. Cette population souffre. Et donc, nous avons un travail qui est peut-être pas visible, mais nous faisons un plaidoyer avec les communautés humanitaires, avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires. Et nous-mêmes, nous travaillons déjà sur un plan de contingence lorsque les choses seront calmes pour savoir comment nous pourrions les assister lorsqu'ils vont revenir dans leur milieu respectif. Et donc, c'est un lourd travail. Je leur demande encore un peu de patience, qu'il y a un gros travail sur le plan politique et diplomatique qui est en train de donner ses fruits. Il faut encore un peu de patience.
Pour rappel, le gouverneur du Nord Kivu, le général Constant Dima, a déclaré mercredi dernier l'épidémie de choléra au Nord Kivu et particulièrement dans les territoires de Niragongo. En bref, toujours au Nord Kivu, sur le plan des opérations, des combats ont opposé toute la journée de ce samedi l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. C'est précisément sur l'axe Bishusha-Tongo, en chefferie de Bwito. Certaines sources militaires contactées dans la région affirment que les rebelles ont été délogés des environs de Bouiza, un groupement de Bishusha, avant d'être repoussés jusqu'au-delà des Murimbi, un groupement de Tongo. Ces sources ne fournissent cependant aucun bilan de cette bataille. Les sources civiles à Kichanga ajoutent qu'au moins 4 groupes armés locaux seraient aussi impliqués dans ces affrontements qui ont commencé depuis hier vendredi dans cette zone. Et puis un corps expéditionnaire des militaires rwandais est signalé sur le territoire congolais. Sous couvert des rebelles du M23, ces militaires ont pour mission de perpétrer des massacres des Tutsis congolais en vue de justifier l'agression de la RDC par l'armée rwandaise. C'est en tout cas ce que dénonce le porte-parole de l'armée. Le général-major Sylvain Kengé est au micro de Pelé Kipelamondo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Niragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargé de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Ainsi, Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales.
Et pendant ce temps, en Ituri, 12 civils, tous de la communauté lindou, ont été massacrés jeudi dernier par des hommes armés identifiés comme appartenant au groupe d'autodéfense Zahir Mazembe au village Aleza, dans le Walundu-Watsi, en territoire de Mahagi, à 190 km au nord de Bounia. Selon des sources locales, parmi les victimes, il y a 5 enfants. Ces victimes sont accusées de pactiser avec les groupes armés Codeco. Les notables de la communauté Lori appellent la Codeco à ne pas répondre à cette provocation. Les détails avec Martial Kizabiamungu.
Les personnes tuées, dont la majorité est constituée des femmes et enfants, ont été surprises dans leur sommeil dans la nuit de jeudi à hier vendredi par les assaillants de la milice Zahir. Selon plusieurs sources locales, ces derniers venus d'Edala et Angalde ont commencé par incendier des dizaines de maisons d'habitation avant de s'attaquer aux civils. 12 personnes ont été abattues, 7 autres sont portées disparues jusqu'à présent. Hier vendredi à Bounia, après une rencontre avec le gouverneur des provinces, les membres de la communauté Lori ont appelé les groupes armés Codeco à ne pas réagir à cette attaque qu'ils qualifient de provocation. Ils demandent à la milice Zahir de s'inscrire comme d'autres groupes armés de l'Ituri au processus de paix de Nairobi. Jean-Marie Njaza est leur porte-parole.
Notre message d'apaisement, parce que se venger revient à tomber dans le piège de l'ennemi que c'est Zahir. Zahir qui refuse d'entrer dans le processus de paix alors que son entrée dans le processus de paix encouragerait à même les éléments de la Codeco qui résistent encore puissent rejoindre.
Ce samedi, selon plusieurs sources, la tension est vive entre les communautés dans les villages de Lolaga, Akwe et Dubaï, toujours dans les Walindu-Poati. Certains appellent à venger les victimes de ces massacres. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu encore remise ce week-end des ouvrages construits et réhabilités par la MONUSCO à travers sa police. Il s'agit notamment d'une salle de réunion et des installations sanitaires. Un projet exécuté par la coopérative de femmes vivant autour des sites miniers Kofevam. Gabriel Wamenya nous dépeint ce bâtiment dans ce reportage.
Il s'agit d'une bâtisse longue de 9 mètres sur 7 et d'une hauteur d'environ 6 mètres qui servira désormais de salle de conférence et à autres activités de cette unité spéciale de la police. Peint entièrement de couleurs blanches à l'intérieur et à l'extérieur, l'ouvrage est orné sur sa façade extérieure d'une bannière bleue répondant aux couleurs et aux symboles de la police nationale congolaise. Estimé à 26 000 dollars américains, les travaux de cet édifice destiné à la police étaient technique et scientifique était jumelée à ceux de la réhabilitation d'au moins 7 toilettes et des douches pour la police de protection de l'enfant. Ici, le commissaire provincial de la police qui a personnellement reçu ces ouvrages parle des retombées positives qui caractérisent les partenariats existants entre la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise. Le général Abba Van Hang.
Vous nous appuyez beaucoup pour améliorer les conditions de vie et de travail de la police et pour une bonne présence auprès de la population. Que la population comprenne cela.
Rappelons que d'autres actions et projets d'appui à la police nationale congolaise sont envisagés par la MONUSCO à travers son unité de police pour rendre celle-ci plus professionnelle dans sa mission et répondre efficacement aux attentes de la population. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
La situation sociale de la ville de Kinshasa, avec les morts et autres dégâts enregistrés au cours des dernières pluies, était au menu de la rencontre hier vendredi entre le gouverneur et les députés nationaux élus de la capitale. Ils ont échangé sur les causes de ces dégâts et comment les éviter à l'avenir. L'essentiel de cette rencontre avec Raphaël Kibuka, président du caucus des députés nationaux élus de Kinshasa, c'est dans un extrait choisi par Baben Pongo Massimango.
Le gouverneur nous a fait part de plusieurs réalités que nous ne maîtrisions pas sur la ville. Notamment que c'est l'entreprise Sopeka qui a en charge la gestion de la route nationale numéro 1 et donc des réparations d'après un contrat signé entre elle et le gouvernement central. Le gouverneur nous a aussi parlé de doléances de la ville. Le gouvernement central a pris l'engagement de verser 2 millions chaque mois à la ville de Kinshasa. C'est peu, mais cela fait 6 mois que cela n'arrive pas. C'est bien de dire que des gens ont construit là où il ne fallait pas. Mais pour délocaliser ces populations, il faut construire de nouvelles cités Ce n'est pas facile. Nous savons que le gouvernement central projette de construire de nouvelles villes vers Maluku. Nous allons en parler aussi avec le Premier ministre. Si nous ne le faisons pas, les pluies ne s'arrêteront pas. Le phénomène climatique non plus, puisqu'il frappe le monde entier. Nous risquons d'avoir plus de dégâts que maintenant.
Notez que le gouverneur de la ville de Kinshasa les a aussi informés des dispositions prises pour l'organisation des obsèques des victimes des pluies. Ces députés devraient rencontrer ce samedi le Premier ministre Samalou Kondé. Sous un autre chapitre, hausse des prix de certains produits agricoles, notamment le maïs et le manioc à Idiofa, chef-lieu du territoire du même nom. La nouvelle société civile rapporte à titre illustratif qu'une mesure de maïs est passée de 1500 à 2500 francs congolais. D'après la même source, le maïs est vendu, même en cachette, car les services de l'économie sanctionnent les vendeuses qui augmentent les prix. Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure, attribue cette situation aux pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur cette partie de la province du Kwilu, ce qui pousse les agriculteurs à se concentrer à la récolte des arachides au lieu de se mettre à produire aussi ces aliments de base. Plus de détails avec Irène Bouma.
Devenu une denrée très rare à Idiofa, chef-lieu du territoire portant le même nom, le maïs se vend maintenant secrètement et à des prix exagérés. Une mesure de maïs, communément appelée kandundu, est passée de 1000 à 2500 francs aujourd'hui. Selon les sources de la nouvelle société civile de ce territoire qui alerte, cet aliment de base n'est plus exposé au marché pour être vendu aux vies et aussi de tout le monde, car les vendeurs craignent d'être poursuivis par les services de l'économie à cause de cette hausse vertigineuse des prix. Arsène Kassiama est le coordonnateur de la nouvelle société civile du Djofa. Il attribue cette situation notamment aux pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur cette partie de la province du Kwilu.
Les mamans ne vendent plus leur maïs au marché, ils les gardent dans des petits coins et font appel aux gens qui vont acheter en catimini parce qu'il y a certaines femmes qui ont été amendées par l'affaire économique qui a fixé les prix. La hausse des prix est due à cause des pluies diluviennes. On évite que leur archive s'abîme, c'est ici qui se donne à la récolte d'arachides au lieu de maïs ou de manioc.
Outre les maïs, notez que les maniocs connaissent également la hausse des prix à Idiofa. 3 à 4 cossettes de manioc coûtent actuellement 1000 francs au lieu de 8 cossettes comme auparavant. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, hausse des prix du carburant en Bougimaï. Le litre d'essence qui s'est vendu il y a deux jours entre 4200 et 4500 francs congolais coûte actuellement 5000, voire même 5500 francs congolais. Les importateurs de produits pétroliers évoquent quelques raisons, dont notamment l'état délabré des routes, le manque de locomotives pour tracter les wagons citernes, ainsi que l'enclavement de la province du Kasaï oriental. Kali Chitenda, président de l'association des importateurs de produits pétroliers, Apicor, en sigle, s'exprime au micro d'Esterne d'Alafina.
Nous sommes dans une province enclavée. Chaque fois, à la fin de chaque année, il y a toujours la hausse du carburant. À Lubumbashi, jusque-là, il n'y a pas les trains, il n'y a pas les wagons, il n'y a rien. Et sur la voie routière, il y a les problèmes de la route. Il n'y a aucun wagon qui est chargé à partir de Lubumbashi. Et tous les camions sont bloqués à partir de Kimanda, Katongola et Vermouleb. Alors, c'est le problème de l'état de route. Et même les moyens de transport par la SNCC, c'est difficile. Si on vous dit qu'il y a des wagons à Lubumbashi, il n'y a pas de wagons. Il y a 4 wagons qui sont en cours de route, mais qui ne sont pas encore tractés jusqu'à présent par manque de locaux. Je sais que la hausse a commencé depuis hier. Hier, c'était à 4500. Aujourd'hui, c'est à 5500. Si possible, demain, comme il n'y a pas les entrées du côté est, du côté Kinshasa, il n'y a aucun camion qui entre avec les produits. Tous les produits qui venaient ici, parfois, c'est Kinshasa qui ravitaillait entre-temps Lubumbashi ravitaillé. Mais pour le moment, comme nous sommes dans une saison pluvieuse, alors la route est totalement bloquée.
Une santé est une stratégie qui vise à combattre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes à caractère zoonotique. Pendant deux jours, des acteurs des secteurs de l'environnement, pêche et élevage de la santé publique ont été formés sur cette stratégie au cours d'un atelier à Kindu. Florence Kizalunga, reportage.
Selon les organisateurs de cet atelier de formation, la stratégie In Santé a été mise sur pied au niveau mondial pour promouvoir la santé publique en mettant l'homme au centre de toute action qui tend à promouvoir la santé. Les organisateurs de ces assises se félicitent d'avoir renforcé les capacités des apprenants. Teddy Ntendai est de la coordination nationale In Santé.
À l'issue de ces deux jours de formation, je suis très heureux de vous dire qu'effectivement, le niveau de renforcement de capacités de membres du comité provincial médicale, une santé de maniement a été renforcée. C'est vraiment une joie qui nous anime, étant donné que le résultat le plus attendu était ce moment.
De leur côté, les participants qualifient ces enseignements de bonnes nouvelles pour le maniement. Moïse Osomba est l'inspecteur provincial de pêche et élevage.
On voudrait que les secteurs de l'environnement, de pêche et élevage, de la santé publique, qui sont des acteurs clés de la structure Une Santé, avec l'appui d'autres secteurs à la promotion de la santé dans sa globalité, arrivent à promouvoir la santé publique au Maniema.
Pour permettre à la province d'asseoir le processus Une Santé, on attend de l'autorité provinciale la signature de l'arrêté portant mise en place du comité provincial de cette structure. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En dehors de nos frontières en Tunisie, ce samedi 17 décembre, près de 9 millions d'électeurs sont aux urnes pour le premier tour du scrutin législatif afin d'élire le nouveau parlement des 161 députés au pouvoir très restreint. C'est le premier scrutin législatif depuis la prise du pouvoir du président Kais Saied le 25 juillet 2021. Depuis, le processus politique mené par le président qui monopolise les pouvoirs a fait l'objet de critiques au sein de la société civile et des partis d'opposition qui dénoncent une mascarade d'élections selon leurs mots.
L'invité.
L'insécurité dans la ville de Butembo prend des proportions inquiétantes. Elle est caractérisée notamment par des attaques des positions militaires et même des massacres des civils par des hommes armés non autrement identifiés. Face à cette situation, l'armée appuyée par la police a multiplié des opérations de bouclage pour endiguer ces fléaux. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mwalusha s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Capitaine Anthony Mwalusha, bonjour.
Bonjour madame.
La situation sécuritaire de la partie nord ou de la ville de Butembo en général devient de plus en plus inquiétante. Il ne se passe plus une nuit sans qu'il y ait crépitement de balles. Qu'en passez-vous, vous, comme armée?
Exactement, cela est dû à certaines déclarations subliminales de certains leaders de la ville de Butembo qui pensent que l'armée serait responsable de ça et qui continuent à engager un débat autour de la production des militaires dans la ville de Butembo. Personne n'ignore que cette ville est infiltrée. Il y a la présence des gens qui collaborent avec les terroristes ADF-MTM.
Parfois, ce sont des positions de militaires qui sont attaquées. Pas plus tard que jeudi, il y a eu même un militaire qui a été poignardé et son arme emportée. Peut-on dire que l'opposition ne soit pas bien sécurisée ou bien armée pour que les inciviques y pénètrent facilement?
Nous sommes respectueuses de loi et de règlements qui régissent, n'est-ce pas, la guerre. Nous ne pouvons pas considérer notre population comme cible. Nous sommes en train de faire la différence entre les dangers qui sont dans la population et la population. N'oublie pas que les Maïmaï en question, ils sont dans la population et ils nous poussent à chaque jour qui passe à commettre des actions qui peuvent, n'est-ce pas, contourner contre nous. Nous sommes tous témoins qu'il y a des militaires qui perdent presque chaque jour leur vie à Butembo, tout simplement parce qu'ils sont militaires et tout simplement aussi parce qu'ils ont accepté de montrer leur professionnalisme. Nous sommes militaires et nous avons aussi un cœur qui saigne. Et si vous imaginez un jour les soldats a décidé d'ouvrir le feu sur tout ce qui bouge à Butembo, là on cherchera vraiment des mots pour expliquer ça. Mais chaque jour quand les civils sont en train de tuer les militaires, et là le monde pense que c'est normal. Et tout ce que nous sommes en train de vivre à Butembo, ce sont aussi les représailles des Maïmaï Baraka, dont on a arrêté la majorité de ces adeptes qui étaient infiltrés dans la ville. Donc, ils sont en train de faire le tout ça pour pousser, n'est-ce pas, l'armée à commettre des bavures. Mais nous sommes une armée professionnelle et nous allons faire le tout possible pour éviter ça.
Consécutivement à cette situation de sécurité, vous êtes en train de faire de bouclage. Quel bilan vous a fait jusqu'aujourd'hui?
S'il faut faire un bilan à mi-parcours de ces opérations de bouclage dans la ville de Butembo, il faut retenir que nous avons déjà interpellé 34 combattants Maïmaï des différents mouvements, dont 14 sont du mouvement Baraka. Nous avons aussi récupéré 12 armes de guerre de type AK-47,
7 machettes, une dizaine de lances et une quantité de cri-cri.
Oui, vous pensez que ces trucs-là déjà récupérés peuvent quand même être à la base de l'amélioration de la situation sécuritaire?
Exactement, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez sur le terrain, même la fréquence des attaques contre la population civile ou contre les positions militaires a sensiblement diminué. Ça veut dire que détenir 12 armes de guerre, c'est vraiment une armée dans une armée. Chaque jour qui passe, nous avons des opérations de ciblage et de démantèlement des infiltrés dans la population. Donc, rassurez-vous, nous n'allons pas fléchir. Nous allons continuer avec les opérations, en déplaise aux responsables d'insécurité dans cette région.
Aujourd'hui, il y a la population, même certains notables de Boutembo, qui dénoncent le fait que pendant ces opérations de bouclage, il y a deux militaires qui sont en train d'extorquer le bien de population, de l'argent. Qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, accuser les militaires d'extorquer ou bien de voler les biens des civils pendant ces opérations, c'est un peu grave. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ces opérations, ce n'est pas mené par l'armée. Ces opérations sont menées par la police, avec l'appui de l'armée. Il y a la présence de la justice, il y a l'ANR, il y a le chef des quartiers, il y a aussi quelques civils qu'on a associés dans ces opérations. Vous allez comprendre que c'est difficile de pointer les doigts accusateurs sur les militaires. Mais qu'à cela ne tienne, si quelqu'un a des preuves dans ce sens, nos portes sont grandement ouvertes pour qu'on en parle et puis qu'on punisse les militaires coupables s'il en existe.
N'est-ce pas un comportement qui risque d'étouffer le marais civil aux militaires qui existe déjà?
Très bien. N'oublie pas aussi que nous sommes dans une ville où les gens sont spécialistes en montage des dossiers contre les services de sécurité, tout justement parce qu'on n'aime pas la présence des militaires. C'est une hypothèse. Je n'exclus pas totalement les accusations portées contre les services de sécurité, mais je vous demande que s'il y a des preuves, parce qu'on ne peut pas punir un soldat quand on n'a pas des preuves ou bien quand on n'a pas quelqu'un qui se plaint officiellement à la justice.
Capitaine Anthony Mualushaï, nous vous remercions.
C'était notre invité, le capitaine Anthony Mualushaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui s'entretenait avec Gulen Kassassia. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.